BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business, émission spéciale enregistrée depuis le Crystal Media and Advertising à Samoëns. On va parler beaucoup d'intelligence artificielle, c'était le thème central de cette édition 2018 du Crystal. On en parlera avec Henrik Lopez de Microsoft France. On parlera aussi des différents jurys, de ce qui s'est dit pendant les délibérations avec Gauthier Piquet de Publicis Media et Marion Thierry de WNT. On fera un détour par la Chine également avec Laura Fauduc d'Alibaba en France, mais pour leur rappel du palmarès avec Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, les news.
C'est un cristal totalement revisité qui s'est tenu cette année au Club Med de Samoëns. Rebaptisé Crystal Mad pour Media and Advertising, cette édition a voulu mettre l'accent sur la nouveauté. 3 jours de workshop et de conférences avec pour thème central l'intelligence artificielle. Et côté compétition publicitaire, moins de catégories pour plus de lisibilité. 70 jurys internationaux ont départagé 375 cas. Et au final, le Grand Prix est décerné à une campagne signée McCann New York pour MGM Resorts avec Universal Love, des chansons d'amour réécrites pour les dédier à la cause LGBT. Le célèbre My Girl est ainsi devenu My Guy et l'album vinyle de cette campagne a été édité à plusieurs milliers d'exemplaires. Dans la catégorie Madmaker, on retrouve l'agence Marcel pour la campagne Le Marché Interdit de Carrefour, une campagne qui visait à promouvoir des légumes non commercialisés en Europe. Parmi les autres primés, Bet on a Murderer, signé Publicis Conseil pour France 3, qui proposait aux téléspectateurs de parier sur le meurtrier de la série La Forêt. On trouve aussi Scary Clown Night de Burger King, où la marque invitait ses clients à venir déguisés en clown pour bénéficier d'un Whopper gratuit. Son concurrent McDo décroche aussi plusieurs prix pour Follow the Arches, campagne print où le M du logo de McDo devient un panneau de signalisation pour conduire les automobilistes à leur restaurant. Et puis Ubisoft se voit aussi récompensé pour The Baptism, réalisé par DDB Paris, un vrai film de cinéma qui nous plonge dans l'univers du jeu vidéo Far Cry au fin fond de l'Amérique des sectes et des armes.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Nous sommes en compagnie d'Henrik Lopez. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft France. Cette édition 2018 du Crystal a placé l'intelligence artificielle au cœur de bon nombre de ses conférences. Comment est-ce qu'elle va révolutionner le monde de la pub, de la communication ?
C'est sûr que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet plusieurs choses. D'une part, de mieux comprendre son environnement, et ça permet donc d'engager mieux avec ses clients. On voit des scénarios, et d'ailleurs les directions marketing ont été les premiers à s'emparer des scénarios de type bot, par exemple, ouais. Même si beaucoup de bots n'étaient pas très IA friendly, je dirais, ou en tout cas qui intégraient l'intelligence artificielle, mais parce qu'il y a un ROI extrêmement rapide, environ 12 mois, donc l'interaction avec les utilisateurs finaux, si je puis dire, ses propres clients, mais également la micro-segmentation en termes de profiling des personnes, des individus, pour après proposer une expérience client encore plus proche et personnalisée. Voilà dans les grandes tendances qui touchent aux fonctions marketing sur l'intelligence artificielle.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que au cours des conférences, on nous a rappelé que l'intelligence artificielle, finalement, c'était pas quelque chose d'aussi nouveau que ça. Que ça fait quand même quelques dizaines d'années. J'exagère un peu, non? Au moins une dizaine d'années que ça existe, qu'on en parle. Pourquoi est-ce que maintenant c'est devenu le sujet à la mode?
En fait, c'est pas une question de mode, c'est une accélération de phénomènes qui convergent et qui nous permettent en fait une accélération de scénarios. L'intelligence artificielle, ça date de la fin des années 60.
Donc j'exagérerai pas sur les dizaines d'années.
Et vous avez tout à fait raison. Moi, je donne toujours le même exemple parce que c'est dans les esprits. C'est en œuvre dans notre vie de tous les jours depuis très longtemps. Et par exemple, dans la fin des années 90, la Poste trie son courrier, ça les enveloppes. Voilà. Cet exemple est très connu avec de l'intelligence artificielle. Il y a plein d'autres exemples. Pourquoi aujourd'hui on a autant d'accélération de scénarios? Parce qu'on a la convergence de 3 choses. La première, c'est la puissance de calcul que nous permet le cloud, en l'occurrence. Bien entendu, les data, puisqu'avec toutes ces datas que nous générons et que nous avons, on peut entraîner des modèles algorithmiques et on peut les processer avec du cloud computing. Et puis, les avancées algorithmiques. On oublie souvent de le dire, mais depuis la fin des années de 2010 à peu près, le deep learning a fait d'énormes progrès. Quand vous mettez en convergence ces trois éléments-là, ça donne des scénarios qui sont vraiment incroyables et qui accélèrent les cas d'usage.
Oui, mais qui dit accélération dit aussi peut-être risque de dérive. Vous-même chez Microsoft, je crois que très récemment, vous avez alerté sur la reconnaissance faciale et les dérives. Est-ce qu'il faut une réglementation mondiale peut-être? Je sais pas.
Alors, vous touchez le point sensible, effectivement, à grandes opportunités, grandes responsabilités, je dirais. Et on se doit tous de regarder l'intelligence artificielle avec une dimension éthique. Donc, on a élaboré un certain nombre de principes que l'on essaye de s'appliquer. On a nous-mêmes un propre comité d'éthique pour ne pas répondre à certains dossiers d'appel d'offres, pour améliorer nous-mêmes nos algorithmes, etc. Donc, dans ces principes-là. Mais également, il y a effectivement une volonté d'influencer aussi le marché et les gouvernements à se poser les bonnes questions pour qu'on ait une intelligence artificielle qui n'interdise pas l'accès à des services fondamentaux, par exemple un contrat d'assurance, etc., qui n'atteigne pas à la moralité ou à la personne physique, ou à des droits de l'homme en fonction effectivement de nos propres convictions. Et justement, le sujet de la reconnaissance faciale, c'est un vrai sujet que Brad Smith, donc le numéro 2 de Microsoft, porte haut et fort en disant « nous devons légiférer sur l'utilisation de la reconnaissance faciale ».
Il y a du travail, en effet, du côté du public, parce que l'intelligence artificielle, ça fascine et ça fait quand même assez peur. On a vu là, pendant le festival, il y a eu un sondage immédiat pendant une conférence où on montrait quand même qu'il y avait, de la part des personnes dans la salle, des festivaliers, une certaine défiance à l'égard de l'intelligence artificielle, notamment utilisée par les GAFA.
Alors, Je pense que c'est assez ambigu. On a lancé il n'y a pas très longtemps et on en a fait la publication au début novembre lors de notre événement Microsoft Experience. On a lancé un sondage auprès des Français avec IFOP et on s'aperçoit qu'à peu près 80% des Français disent savoir à peu près ce que c'est que l'intelligence artificielle, avec un niveau de confiance aux alentours de 65-70% selon les tranches. Donc on se dit, Ils sont bien informés, enfin ils sont confiants. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a un besoin d'information. Donc cette différence montre bien que on doit continuer à éduquer. Et quand je dis éduquer, c'est pas uniquement de la sensibilisation. Il y a une notion de formation qui est extrêmement importante à ce niveau-là, et éduquer aussi sur les usages et les travers et la problématique liée à la data, etc. Effectivement, quand vous parlez de GAFA. Donc je regarde mes petits confrères, et je mets pas le M à la fin, à la fin du mot. Oui, ils ont des modèles de monétisation éminemment tournés sur la data, ce qui est pas notre cas, et ça peut poser des questions d'utilisation des données, et surtout quand on met de l'IA. Et malheureusement, on a vécu une année où il y a eu beaucoup de scandales ou de réflexions ou d'agitations autour de ces sujets-là.
Merci beaucoup, Henrik Lopez. Je rappelle que vous êtes directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft France.
Merci.
Merci.
Marion Thierry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créative directeur chez WNP et vous étiez membre du jury créative. Alors, qu'est-ce que vous retenez d'abord de la sélection de votre catégorie cette année?
Alors, ce que je retiens, c'est un très, très gros niveau en film. Où on a en l'occurrence Ubisoft qui place la barre extrêmement haut, mais aussi beaucoup de films qui sont des vraies surprises et qui sont assez exceptionnels, et c'était très compliqué de les départager parce que certains ont des castings extraordinaires, d'autres c'est la musique, d'autres c'est l'idée, d'autres c'est tout ça à la fois. Donc voilà, on a été obligé d'enfreindre un tout petit peu les règles et d'accorder un tout petit peu plus de prix que ce qui était prévu.
Bon, le grand prix que vous retenez en termes de film, c'est Burger King. Pourquoi ce choix?
Burger King, c'est un peu plus qu'un film. C'est ça part d'une opération promotionnelle pour Halloween, tout simplement, et d'un drive to store très simple. Sauf que ils sont appuyés sur l'irrévérence dont ils ont toujours fait preuve, et ils ont appliqué ça dans le monde entier, en demandant à tout le monde de venir déguisé en clown. Donc petit clin d'œil au concurrent principal, et pour avoir un Whopper gratuit. Et en fait, c'est devenu une campagne mondiale adaptée par tous les pays, avec un craft en affichage qui est assez exceptionnel et un film très impressionnant. Enfin, toute la campagne est très forte.
Et alors justement, vous avez primé pour le coup en print le concurrent McDo.
Alors c'était pas du tout voulu. En fait, on s'en est rendu compte en faisant un petit peu le récap final de tout ce qu'on avait attribué, que effectivement les deux plus gros prix étaient attribués à ces deux annonceurs là, ce qui est assez ironique. Mais effectivement, Follow the Arches pour McDonald's, c'est une campagne d'affichage qu'on aimerait tous faire, c'est-à-dire que c'est simple, efficace, impactant, global, comme la marque l'est de toute façon. Et voilà, et en tant que créatif, on a toujours très envie de trouver ce genre d'idées un peu universelles, et voilà, et parfois elle est un peu, on l'a sous notre nez. Et ben dans leur cas, ils l'avaient carrément dans leur logo, simplement il fallait y penser.
Ouais.
Il fallait la trouver et il fallait la développer, et c'est assez agaçant de voir les autres arriver à faire ça, mais c'est assez jouissif de voir qu'on peut encore innover là-dessus. Et en plus d'être efficace et simple, elle est utile parce que c'est quand même à la base des panneaux de signalisation.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est en fait c'est un petit peu on a l'impression que vous avez fait le grand écart entre une campagne d'activation sophistiquée, film, activation, réseau, etc., et de l'autre côté une affiche dont finalement le trait est très simple. C'est rassurant ou c'est que la créativité soit à ce point diverse?
C'est rassurant de voir qu'on n'est pas forcément obligé d'aller chercher dans la complexité pour innover aujourd'hui, et qu'on peut encore innover avec des idées extrêmement simples. Donc c'est quand même la base de notre métier, c'est ce qu'on aime voir et c'est ce qu'on aime faire. Et puis c'est jouissif de voir que sur la base d'une bonne idée, on peut déployer sur une idée toute simple et un point de départ tout bête, déployer des choses dans le monde entier que tous les pays peuvent s'approprier.
Donc, vous avez eu un coup de cœur personnel autrement hors de cette sélection-là?
Alors j'en ai deux, je sais pas si je peux en dire deux.
Bien sûr.
Allez.
J'en ai un qui est artistique, qui est le clip pour les passantes de Charlotte Abramoff, qui est un objet c'est un objet artistique à part entière, et c'est un film qui nous a tous hypnotisés et en longue liste, et après qu'on a re-regardé et re-regardé, et qui où en fait chaque plan est une idée, il y en a qu'on décode, il y en a qu'on décode pas, et du coup on se retrouve à réfléchir beaucoup en regardant ce clip, à se demander, à essayer de trouver ce qu'elle a voulu dire, et du coup c'est une œuvre qui est une vraie conversation entre l'artiste et nous, qu'on a trouvé très intéressante, qui nous a posé des questions, parce que est-ce une idée créative et est-ce que ça se prime dans un jury créatif? C'est délicat, mais c'est très poétique. Et la deuxième, mon deuxième coup de cœur, c'est Blind Meters, qui est une campagne, enfin, de créatech assez impressionnante. Et après avoir vu beaucoup de campagnes charity sur le thème Don't Text and Drive, celle-ci trouve...
C'est-à-dire n'utilisez pas votre...
Ne textez pas en conduisant, pardon. Celle-ci montre qu'on peut... créer une application de ça et vraiment sensibiliser les gens là-dessus. Donc ça, c'est une campagne très impressionnante. Ouais.
Merci beaucoup Marion Trieri. Je rappelle que vous êtes créative directeur chez WNP.
Merci. Merci.
Gauthier Piquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Publicis Média France. Vous étiez justement dans le jury Média. 12 prix dans ce jury. Alors, on va pas tous les passer, mais le grand prix a récompensé une campagne canadienne. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Dans ce jury, on a dès le début voulu être dur, clairement. Le prix qu'on devait décerner dans le MAD, c'est de respecter le mot M. Le mot M, c'est Média, Ad Advertising. Et l'objectif, c'était de reconnaître à un moment un vrai prix Média, c'est-à-dire un prix qui va donner de la force à une idée créative. Et on a souhaité donner ce prix à Data versus Cars, car on a trouvé que c'était une vraie campagne Média avec des vrais résultats. On a été extrêmement focus sur l'efficacité que devait donner un dispositif. Aujourd'hui, dans les festivals, souvent, on voit énormément de urn, énormément de résultats incroyables avec des plus de 220 millions de PR, des stunts géniaux et beaucoup, beaucoup d'émotions et de larmes qui coulent. Et ben, nous, on s'est dit à un moment, ce qu'il faut que l'on prime, c'est une campagne média qui respecte une campagne créative, une idée créative et qui donne des résultats tangibles de business à un annonceur. Il faut jamais oublier qu'un annonceur derrière, c'est des investissements médias. Et donc, ces investissements médias, eh bien, ils doivent donner une réalité de résultats et une réalité concrète. Donc, on a passé notre temps au jury à non pas choisir et à pas élire le meilleur cas, mais surtout à un moment à se dire, non, nous ne voulons pas des mauvais cas qui sont souvent à un moment post-rationalisé, mais on veut élire le cas qui nous semble avoir été réfléchi dès l'origine avec le média, avec une idée créative et qui donne des résultats. Et data versus car, c'est cette intelligence de la data, cette intelligence de l'utilisation de médias traditionnels tels que l'affichage, cette utilisation du real targeting, de la géolocalisation au service d'une idée créative et surtout au service d'un business client.
Alors c'est une campagne de l'équivalent de la SNCF au Canada. Vous pouvez nous dire comment elle est constituée cette campagne?
Bien sûr, elle est constituée tout simplement sur l'analyse en temps réel du trafic quand les gens et quand les Canadiens sont bloqués dans ces bouchons qu'on connaît tous. Il n'y a pas besoin de gilets jaunes pour ça. Et donc, c'est une campagne qui va adresser un message par affichage automatique en leur disant, bah voilà, de cette distance à cette distance, de Québec à Toronto, aujourd'hui, à ce moment précis, vous en avez pour 3h42. Si vous aviez pris le train, vous en auriez eu en ce même moment que pour 1h40. Et il y a tout un aspect après de géotargeting, de retargeting sur le mobile, sur les websites, pour dire que quand on est arrivé chez soi, si on a été un moment sur le site, on reçoit encore un autre message en leur disant, vous savez, si vous aviez pris le train, vous auriez pu arriver avant. Donc c'est un écosystème que l'on a trouvé assez remarquable parce qu'il redonne la part belle aux médias et notamment aux médias traditionnels, dans un monde où souvent on parle trop de réseaux sociaux, de googlisation, de tout. Là, on a trouvé que c'était un bon équilibre d'une utilisation intelligente de la data, intelligente bien évidemment du réseau social, mais surtout extrêmement pertinente des médias de trafic qui étaient là en l'occurrence de l'affichage dynamique, et puis après il y avait tout un écosystème un peu plus développé autour.
Alors il y a aussi une campagne française qui a été primée, et là on est plutôt dans la techno, c'est pour l'ICM, c'est une technologie haptique, dit-on, et là on est plutôt dans une problématique quand même sensiblement différente, puisque l'idée c'est de faire sentir aux gens, on n'est pas là avec consommateurs, ce qu'est la maladie de Parkinson.
C'est exactement ça. T'as tout dit, on a beaucoup aimé cette campagne parce qu'on a trouvé que cette campagne, par le dispositif média, donnait du sens à l'idée créative. Et ça, on a vraiment été vraiment marqué parce que c'est une utilisation intelligente de ressentir et de faire ressentir aux gens ce tremblement, cette vibration.
Et comment ça se passait concrètement?
Et ben concrètement, c'est dire qu'à un moment, sur une idée créative, c'est dire qu'on devrait vibrer que pour les bonnes choses. Notre premier baiser, notre première rencontre, la naissance de notre enfant, ce sont des vibrations qui devraient être uniques dans notre monde. Et malheureusement, cette maladie nous donne aujourd'hui d'autres vibrations. Et bien, par de la technologie, par des algorithmes, l'ICM et l'agence média, enfin l'agence créative, c'est une idée avant tout créative, a réfléchi à comment redonner aux gens l'idée que quand ils regardent une vidéo, quand ils regardent un dispositif, mais même sur un terminal, eh bien, ils vont sentir une vibration. Et de se dire qu'on ne devrait sentir les vibrations que les belles choses et pas sentir des vibrations sur une consommation quotidienne, de lire son journal, de consommer une lecture d'un contenu sur le digital parce que c'est malheureusement une vibration continue. Et on a trouvé cette idée extrêmement intelligente parce qu'elle va prendre la puissance technologique, la puissance du ciblage, évidemment l'enjeu de toute lecture de contenu, mais elle va y associer cette petite chose qui semble rien, mais qui malheureusement détruit, c'est de nous donner cette vibration au quotidien. Et on a trouvé ça extrêmement pertinent avec l'ICM.
Merci beaucoup Gauthier Piquet. Je rappelle que vous êtes président de Publicis Média France.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous sommes maintenant, Frédéric, avec Laura Fauduc. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes Head of Marketing and Communication France pour Alibaba. C'est vrai que je lisais une étude en préparant cette émission, une étude de Kantar, qui disait qu'à partir de l'année prochaine, vraiment, la Chine allait un peu donner le là et qu'on allait tous se mettre à imiter les modèles chinois en termes de communication. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces modèles chinois?
Alors, je pense que déjà, pour remettre un peu dans le contexte, c'est vrai que la Chine est un pays quand même assez différent en termes de volume, en termes de territoire. Bon, il y a plus d'un milliard de Chinois, donc vous imaginez en termes de communication, de conversation, c'est une autre dimension. Donc par rapport à ça, il a été développé énormément d'infrastructures aussi pour pouvoir permettre de communiquer avec ces Chinois. Et c'est vrai que le gouvernement chinois et la Chine en général est assez avancé sur tout ce qui est intelligence artificielle, puisque c'est le thème aussi du Crystal Man, et en termes aussi de réseaux sociaux, on le sait déjà, d'interaction, d'expérience client en général, que ce soit sur le mobile, puisque c'est une nation qui est mobile only, comme je dis, toute leur vie se passe sur le téléphone. Et de là découle en fait toute l'interaction avec eux, mais aussi sur les points physiques, puisque de plus en plus le consommateur chinois a envie aussi d'expérimenter les produits et d'aller en magasin pour certains, où ils voyagent aussi énormément et veulent découvrir d'autres produits. Donc on est dans une conversation et une communication au sens très large en termes de volume, au sens très large en termes de points de contact, et je pense que en ça la Chine a un paysage en fait assez différent du reste en fait des pays en général.
Alors en effet, l'IA est au cœur de ce festival. Hier, pendant les débats, on entendait beaucoup que, en tout cas en France, il y avait une certaine, sinon résistance, en tout cas circonspection par rapport à l'IA des consommateurs. Qu'est-ce qu'il en est en Chine ? Est-ce qu'ils sont plus ouverts à ces utilisations ?
Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est large comme thème, puisque on l'a vu dans les conférences, ça parle vraiment de la reconnaissance basique, on va dire, que ce soit visuel ou que ce soit de traduction. Et c'est vrai que en ça, la Chine a adopté ça assez rapidement. Donc aujourd'hui, en intelligence artificielle en Chine, on a la reconnaissance visuelle des objets pour assez rapidement en fait trouver ce qu'on cherche, mais également de traduction. On utilise l'intelligence artificielle en Chine aussi pour optimiser toutes les villes, on va dire, en termes de circulation. Quand on a un milliard de Chinois dans un pays, mais surtout dans certaines villes où il y a énormément de population, c'est déjà appliqué ce qu'on appelle, nous, le ET City Brain, pour optimiser un peu beaucoup la circulation et la pollution, parce qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Donc l'intelligence artificielle en Chine, elle est déjà bien en place.
Mais peut-être avec certaines dérives aussi, notamment sur la reconnaissance faciale.
Alors, c'est là où je pense que la Chine est très avancée du coup dans ses applications et du coup très avancée sur ces questions de gouvernance de la data ou de gouvernance sur ces possibles dérives. Encore une fois, on est sur un pays où aujourd'hui les applications en fait de l'intelligence artificielle sont plus là pour aider on va dire dans le quotidien des Chinois ou dans l'optimisation en fait de leur vie au quotidien. Et c'est très lié aussi au fait que il y a une question de sécurité qui est complètement maîtrisée aujourd'hui par rapport à ça. La reconnaissance faciale, nous par exemple, on l'utilise énormément pour le paiement, parce que toute leur ils payent par mobile
et par Alipay,
exactement. Et donc du coup, c'est lié en fait à la carte SIM et leur on va dire identité mobile est liée à leur identité personnelle. Donc ils payent leurs impôts, ils payent leurs factures. Donc il y a une certaine sécurité finalement dans la reconnaissance faciale, plus que dans un code de carte bleue à je sais plus, il y a des chiffres.
Mais est-ce que nous occidentaux, on est prêts à accepter ça ?
Alors honnêtement, je ne pense pas, vu les débats que j'ai entendus hier. Je ne suis pas j'ai entendu les débats, donc j'ai l'impression à la fois qu'il y a une méfiance, mais en même temps pas tant que ça, puisque quand il y a eu une intervention de Microsoft sur le sujet et qu'il y a eu un espèce de panel dans le public, les gens ont quand même répondu qu'ils avaient confiance en l'intelligence artificielle. Je pense que là où la méfiance se situe, c'est sur la gouvernance, l'utilisation, les dérives possibles et donc le cadre dans lequel ça va être appliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu par rapport à ça, plus que sur les possibilités et les opportunités que l'intelligence artificielle peut apporter. On l'a vu spécialement dans la musique, dans la créativité, et je pense que les gens étaient plutôt optimistes et très très enthousiastes sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans ces domaines-là.
Alors, Alibaba a aussi son propre assistant conversationnel, dont on dit qu'il est encore plus performant que ce qu'on connaît ici. Quand est-ce que, d'abord, en quoi est-ce qu'il est plus performant et est-ce qu'on en verra un jour en France ?
Alors c'est le Tmall Genie, donc c'est effectivement un équivalent, je sais pas, d'un Google Home ou quelque chose, quelque chose comme ça, pardon. Et il a été développé au début pour effectivement aider, donc comme j'expliquais, le consommateur chinois dans son quotidien, etc. On l'a beaucoup utilisé, par exemple, pendant notre Global Shopping Festival, donc le Double Eleven, le Single Day, pour créer de l'interactivité, faire des quiz, les marques l'utilisaient. Et on s'est rendu compte que c'était donc assez facilement, l'engagement à l'interactivité se fait avec le consommateur chinois, puisque lui, il l'utilise au quotidien. Et puis, on l'a étendu, en fait, sur ses capacités, par exemple, linguistiques. Donc, évidemment, que en chinois. Moi, j'ai vu le prototype que en chinois. Donc, quand on parle pas chinois, c'est difficile d'interagir.
Bien sûr.
Mais comme il y a la traduction, en fait, simultanée grâce à l'intelligence artificielle, grâce aussi à la technologie qu'on a mis derrière, ça permet, en fait, d'interagir directement. Donc vous avez un interlocuteur qui parle pas la même langue que vous. Vous avez le Tivolgini entre nous. On pourrait faire cette interview en fait chacun dans nos langues natives et avoir une conversation plus performante. Alors en ça, je ne sais pas, je peux pas comparer. J'ai pas fait un benchmark sur les autres assistants personnels. Mais c'est sûr qu'en Chine, vu les interactions, l'interactivité, le volume d'interactions qu'on a déjà, ça nous permet de tester, de performer mieux, puisque évidemment on a plus de data derrière ou on a plus d'usage derrière.
Merci beaucoup Laura Fauduc. Je rappelle que vous êtes Head of Marketing and Communication de Alibaba France.
Merci à vous. Merci.
Voilà, Hebdocom spécial Cristal, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième numéro consacré toujours au Cristal Media and Advertising avec Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On balayera toutes les tendances de l'année 2019. À la semaine prochaine sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdocom sur BFM Business.